Bonsoir, vous venez d'embarquer dans le sous-marin pour une heure d'actu étudiante, culturelle, politique, associative, économique ou sociale. Notre sous-marin n'est pas jaune, mais il fait bon y passer une heure tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h. Enfilez donc un scaphandrier, il y en a pour toutes les tailles et pour tous les goûts. Je suis Tiffaine pour vous accompagner pendant cette heure au fond de l'eau. Mon équipage change tous les soirs et mardi oblige, Nanette, Quentin et Pierre-Antoine seront ce soir à bord. Au programme donc, billets d'humeur, géopolitique et politique. Ce soir dans le sous-marin, nous allons parler d'une association qui rapproche étudiants et jeunes de quartier depuis plus de 20 ans, l'AFEV, l'association de la Fondation étudiante pour la ville. Pour en parler, nous recevons Noémie Vigneron, Jonathan Pommeret et Anthony Gilles. Bonsoir à vous trois.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Parce qu'on ne change pas un sous-marin qui fonctionne, vous retrouverez comme chaque jour en fin d'émission l'agenda de votre soirée et la bulle sonore. Les hydrophones sont branchés, c'est parti. Nous sommes mardi et c'est l'heure de retrouver Nanette pour son torpillage en règle.
Welcome to the United States. François Hollande est depuis quelques temps déjà chez l'oncle Sam. C'est un petit voyage pour le président français. Il a même emmené tous ses amis ministres, certainement pour l'ambiance. Évidemment, on se doute bien qu'il ne s'agit pas d'un séjour linguistique. François bilingue, ça fait pas crédible. En revanche, immersion totale dans le pays. François, pourtant, c'est pas le genre « Hey, bro, what's up ?» Premier exemple, au concert R&B de Mary G. Blige. Michel et Barack sont à fond, ils secouent la tête en rythme et synchro, et François, assis entre les deux, statique et sérieux, se demande sûrement si le hamburger de midi n'était pas la petite gourmandise de trop. Mais le pire, c'est qu'à deux chaises du président, il y avait Stephen Colbert, le présentateur télé le plus anti-français, qui adore s'amuser comparer François au Flambie, ou encore François à Quasimodo, bossu de Notre-Dame. On imagine tout de suite l'ambiance. François a dû aussi tenir une conversation seul, sans traducteur, ça se passe pas trop mal, jusqu'à ce qu'il rencontre un employé de l'aérospatiale et qui nous a quand même sorti « So with the special fusée ». Allez hop, on glisse un mot français dans la conversation, avec l'accent anglais, on y verra que du feu. On va pas chipoter. En tout cas, côté américain, ils sont super contents, une tête bien franchouillarde de temps en temps, ça fait du bien. Mais c'est surtout pour eux le bad boy à la française qui a enchaîné les girlfriends. Pour François, on fait tout. Fanfare, tapis rouge et coup de canon. Les Amerlocs ont ressorti tous les bons clichés français. On a retrouvé par exemple à la mairie de San Francisco un groupe de musiciens habillés en haillons du Moyen-Âge, quatre fillettes qui ont chanté San Francisco de Maxime Le Forestier et un peu partout des gosses avec le drapeau français en petits gilets, mocassins et chaussettes blanches. Heureusement qu'en Europe, on sort pas cow-boy et rodéo chaque fois qu'Obama débarque. François s'est détendu, il a commencé son discours en détendant l'atmosphère, mais il va vite décevoir à un cocktail alors que Barack lui donne un verre, comme en son habitude. François ne boit pas, il fait à peine semblant, et quand Barack lui demande « un qu'il est bon », le français répond « oh oui, oh le menteur, au président américain en plus ». Et enfin chez les journalistes français, alors là c'était la fête du slip, ils enchaînent selfie sur selfie, partout dans les locaux accessibles de la Maison Blanche, et en arrière-plan presque caché, les deux présidents sont oubliés. La Maison-Blanche leur a évidemment demandé de se calmer. Une autre étape importante est qu'il ne faut pas oublier le déjeuner de François Hollande avec sept chefs d'entreprise multimillionnaires américains, dont le président de Google. Pour François, ce déjeuner était très important. Il s'agissait en gros de leur demander d'investir en France. Oui, le challenge est énorme. François et Jean-Marc avaient peut-être prévu de les faire boire un peu. En tout cas, François y a mis corps et âme pendant 3 semaines. Il a fallu trouver le resto. C'est la folie qui a été choisie. Folie, c'est bien le mot. François a sorti le gros chèque. Le déjeuner a coûté à la France entre 6 et 8 000 euros. C'est sûr, c'est pas le budget d'un dîner de famille. Il y a intérêt à ce qu'on les ait, ces investisseurs. Une chose est sûre, François a l'air de bien s'éclater au state. On est content pour lui. Il serait pas étonnant d'ici là de le voir danser le country sur la plage de Miami ou se poiler avec Jean-Marc dans les casinos de Vegas.
Merci Nanette pour ce billet d'humeur, ce torpillage en règle comme tous les mardis soirs. Tout de suite dans le sous-marin, on écoute Star Walkers, Losers Can Win.
Thank you.
Vous écoutez Le Sous-Marin sur Radio Campus Angers, un sous-marin ce soir consacré à la FEV, l'association de la Fondation étudiante pour la ville. En plateau, nous avons donc trois membres de la FEV, Anthony Gilles, Jonathan Pommeret et Noémie Vigneron. Alors, la FEV, c'est une association qui œuvre depuis 1992 et qui met en lien en fait des étudiants avec des jeunes ou des enfants de quartier qui présentent des difficultés, qui ont des difficultés à l'école. Un dépend de l'action de la FEV, c'est l'accompagnement de ces élèves-là, de ces enfants ou de ces jeunes qui ont des difficultés. Anthony Gilles, c'est vous ce soir qui allez évoquer ce pan d'accompagnement. D'abord, un premier mot, comment est-ce que vous êtes entré, vous, à la FEV?
Donc justement, je recherchais, tout d'abord, de la part de la FEV, merci de nous avoir accueillis.
Merci de nous avoir invités.
Et ensuite, moi personnellement, en effet, ma sœur travaille déjà en fait à la FEV en tant que chargée de développement local à Paris. Donc lorsque j'ai voulu faire un service civique, elle m'a dit tout simplement, compte tenu de notre action, essaye de voir si cela pourrait te convenir. Et en effet, lorsque j'ai vu les objets, l'accompagnement à la scolarité et également les projets co qu'on va également aborder ce soir, eh bien, je me suis dit que ça pouvait être une bonne expérience. Et ensuite, justement, donc j'ai rencontré les deux chargés de développement locaux, c'est-à-dire Manon et Gabriele. Et donc voilà, ça m'a convaincu.
Parce qu'il faut, juste rappeler quelques chiffres. Angers, vous êtes, donc il y a 2 employés, 4 services civiques, 92 voilà. Bénévoles. Mais dans tout ce monde-là, cette petite centaine, tout le monde ne veut pas forcément travailler dans l'éducation nationale ou l'éducation tout
court. Pas du tout.
Ça qu'il faut préciser, c'est que c'est pas forcément votre objectif à terme.
Non, pas du tout. C'est vraiment, pour certains bénévoles, ça va être à 100% sur les projets collectifs. Mais d'autres se mettent sur l'accompagnement à la scolarité et également sur les projets co, ou tout simplement sur l'accompagnement à la scolarité. Et le tout, justement, c'est pendant une année, faire le pari de participer à des actions, à une action associative, mais qui est en lien, là, en effet, avec le milieu éducatif. Et on revient sur les inégalités, et notamment donc scolaires, dans les quartiers populaires. Donc c'est assez ciblé, en fait.
Alors, dans ce travail d'accompagnement à la scolarité, comment s'effectue le contact en fait entre les enfants ou les jeunes en difficulté et la FEV? Est-ce que ça s'effectue par le biais de l'école, ou est-ce que c'est la FEV qui va les chercher, ou inversement, comment ça fonctionne ce contact justement?
Alors, le contact principal, c'est justement un enseignant qui détecte certaines difficultés chez certains enfants, et donc au final, il en informe tout simplement les parents. Il leur dit, je connais une association, nous travaillons en partenariat avec une association qui pourrait peut-être justement accompagner votre enfant 2 heures par semaine. Est-ce que ça vous intéresserait? S'ils sont intéressés, eh bien, ils en parlent à l'enfant. C'est bien ce qu'on dit d'ailleurs aux bénévoles lorsqu'ils arrivent à l'association pour donner de leur temps. C'est qu'on leur dit que non seulement nous avons donc l'accord de la structure scolaire, mais également des parents, mais aussi de l'enfant. Il faut vraiment qu'on ait l'accord de ces 3 personnes-là pour mener à bien cet accompagnement-là. Donc au final, une fois qu'ils ont l'accord de l'enfant, ça lui dirait d'avoir 2 heures par semaine, une personne, un adulte, un étudiant qui vienne l'accompagner, eh bien, en effet, ils remplissent une feuille, ils la transmettent directement donc au prof, et ensuite, l'enseignant, lui, fait le nécessaire pour que ça arrive justement jusqu'à la FEV. Et donc là, après, nos responsables nous transmettent la feuille et nous, on recherche des bénévoles qui correspondent en termes d'emploi du temps, en termes de quartier, d'âge de l'enfant. Parce qu'en effet, certains bénévoles se sentent un peu plus à l'aise avec un enfant de primaire qu'un collégien, ou inversement. Donc on essaye de faire au mieux.
Et est-ce que pendant ces 2 heures d'accompagnement, vous ciblez sur une matière particulièrement, ou est-ce que vous brossez tout le programme
Justement, l'accompagnement à la scolarité, je pense que c'est intéressant de le nommer, c'est-à-dire que ce n'est pas du soutien scolaire. Et donc, l'accompagnement à la scolarité, si vous voulez, c'est à un moment donné, en effet, il y a une toute petite part d'aide scolaire, de soutien scolaire, c'est-à-dire que nos bénévoles vont revenir sur les vraies grosses lacunes, si vous voulez. Voilà. Mais on n'est pas là pour... Je vais vous donner un simple exemple, mais on n'est pas là pour faire les divisions semaine après semaine avec l'élève. Et à un moment donné, on lui explique comment justement faire une division par lui-même. Et après, il n'est pas censé justement nous redemander, à part si la semaine d'après, il a totalement oublié. Mais voilà, on est vraiment censé récupérer, entre guillemets, certaines lacunes, les remettre à niveau, les rendre un peu autonomes. Et ensuite, on passe à autre chose, quoi. Et toute la richesse, en fait, de cet accompagnement, justement, c'est que ça ne se limite pas à cela. C'est qu'il y a également une ouverture culturelle. Il y a également des sorties, justement. On parle des quartiers populaires. On a pas mal d'enfants, justement, de 6 à 15 ans même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure hors émission, eh bien, qui ne sont jamais en fait sortis de leur quartier populaire. Donc au final, que ce soit Montplaisir, que ce soit La Roseraie, que ce soit De Croix-Banchet, eh bien, parfois c'est déjà une grande découverte que de découvrir justement le ralliement, que de découvrir le musée des Beaux-Arts, que de découvrir rien que de prendre le tramway. Donc au final, et là, quand on parle d'autonomie, eh bien, inviter l'enfant, tiens, aujourd'hui, si tu veux, on va faire quelques courses ensemble, dont tes parents justement ont besoin. Si tu veux, on va prendre le tramway, tu vas passer ta carte tout seul, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment tout cela que cela englobe, l'accompagnement à la scolarité.
Est-ce que en accompagnant ces jeunes, justement, vous mettez le doigt sur des lacunes qui arrivent à chaque fois avec chaque jeune, en fait, qui sont là tout le temps, des lacunes du système scolaire, en fait? Est-ce que vous arrivez à en déceler certaines?
Oui.
Qui sont récurrentes?
Pardon. Oui, en effet, tout à l'heure, je vous parlais d'une feuille que, justement, les parents remplissaient. Et en fait, il y a une case qui est réservée aux enseignants. Et les enseignants nous disent tout simplement, bah voilà, ce que j'ai détecté chez l'enfant comme lacune, comme problème, etc. Et il y a une lacune qui revient, c'est la méthodologie de travail. C'est pas tant sur des questions de maths, de calcul ou de théorie ou je ne sais quoi. C'est vraiment sur la méthodologie de travail. Ils ont du mal à s'organiser. Ils ne trouvent pas, une fois chez eux, en fait, les moyens de... réussir à s'organiser par rapport aux matières, par rapport au contrôle, savoir anticiper. Parfois, pour les enfants, justement, pour les primaires, eh bien, on va plus être dans savoir faire son cartable, anticiper pour les cours du lendemain, etc. On pourrait dire que c'est assez basique, mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas acquis cette méthodologie-là, que ce soit d'un point de vue scolaire ou que ce soit finalement en amont, quoi, c'est-à-dire faire son cartable, eh bien, savoir faire son cartable, eh bien, bah voilà quoi. C'est un vrai handicap, du coup.
En décembre dernier, le classement PISA tombait pour la France. Je dis tombait parce qu'il pointait les limites du système français. On est les champions de l'inégalité scolaire. Est-ce que sur le terrain, vous le remarquez également, ce problème-là, cette faille du système scolaire-là, de l'inégalité?
Je constate que la FEV continue d'avoir justement une pertinence via son action. Et donc au final, ça veut dire que les inégalités sont tout le temps là. Je veux dire, les lacunes sont là, elles sont assez ciblées. On sait les quartiers où il y aura plus de difficultés scolaires. Et puis on a un système scolaire qui permet cela, entre guillemets. Donc au final, voilà, un enseignement de qualité, ça coûte tant. Un enseignement de moindre qualité... éventuellement c'est gratuit ou alors ça coûte tant. Et donc voilà, ça entretient les classes populaires dans le côté populaire et les classes aisées dans la classe aisée. Mais et j'avais lu certaines justement études qui essaient, et surtout certains propos d'intellectuels français suite à ce rapport-là, eh bien ils évoquaient en fait un peu cette idée de caste dans notre propre société française. Et donc au final oui, ça nous effraie, mais d'un autre côté, si vous voulez, eh bien il y a la volonté quand même de l'État, on peut pas la négliger, et bien de financer certaines associations, certaines initiatives justement pour parer à ces inégalités. Seulement, parfois, c'est vraiment structurel qu'il faudrait changer les choses, pas seulement mettre des pansements sur les quelques blessures, etc. Et à un moment donné, il faut vraiment revenir à la base, quoi.
Alors, une des autres actions de la FEV, c'est les ateliers parents-enfants. Donc, je me tourne vers Noémie Vigneron. Vous occupez de ces ateliers avec d'autres, bien sûr, mais vous occupez de certains ateliers parents-enfants. Ce sont des ateliers qui sont menés auprès d'écoles maternelles, si je ne me trompe pas, à La Roseraie et à Montplaisir. Alors, concrètement, comment est-ce que ça se déroule, un atelier avec les parents et les enfants?
Alors déjà, le mardi, on est sur La Roseraie et le jeudi après-midi sur Montplaisir. Donc comment ça se passe? On intervient via les directeurs d'école. Donc on fait passer le mot aux parents qui ont la date et l'heure de cette petite réunion. Et donc ils viennent avec leurs enfants qui sont de maternelle. Et donc... c'est sous forme de jeux, on va faire des jeux tous ensemble, donc ça peut être des jeux de la ludothèque ou des jeux qu'on a préparés plus tôt. Donc sur Montplaisir, on est plus autour du langage et de la découverte du monde, donc plus sur la culture générale. Donc c'est des jeux qui sont préparés autant pour les enfants que pour les parents. Donc, ça fait participer tout le monde et à travers ça, on échange, c'est vraiment un lieu où on peut... parler de tout.
Ça s'adresse à tous les publics de ces écoles-là.
Oui.
L'objectif, c'est d'ouvrir...
D'échanger et d'ouvrir, oui, ouverture culturelle.
D'accord. Une des autres actions de la FEUF qui décidément les cumule, c'est l'organisation de la journée du refus de l'échec scolaire. En septembre, c'était la sixième journée du refus de l'échec scolaire. Et je citerai juste quelques chiffres qui sont parus dans votre baromètre du rapport à l'école des enfants des quartiers. 71% des enfants ont parfois des difficultés à comprendre ce qu'on leur demande de faire en cours. Ça rejoint la notion de méthodologie que vous évoquiez tout à l'heure, Anthony Gilles. Et 35% des enfants déclarent souffrir parfois ou souvent de maux de ventre avant de se rendre à l'école. Est-ce que les ateliers par enfant ou l'accompagnement à la scolarité que vous menez à la FEUV, c'est fait pour pallier ces chiffres-là qui sont assez alarmants finalement ?
Oui, bien sûr.
Je suis d'accord donc. Oui, alors moi, par rapport à mon accompagnement, justement, j'ai un cas vraiment spécifique. En ce sens que l'enfant que j'accompagne, justement, vient de Syrie. C'est un cas vraiment particulier. Il ne parle pas français, il ne parle pas anglais. Donc au final, il fallait trouver justement sur la base d'arabe, etc. Donc c'est vraiment un cas atypique. C'est pour ça, je vais peut-être laisser répondre John par rapport à ce...
Jonathan
Pomeray.
Ouais, non, mais au niveau des enfants, ça se passe très bien et.
Non, oui, la question c'était comment est-ce qu'on peut faire pour enrayer ces chiffres-là du baromètre des enfants des quartiers par rapport à l'école.
Ben un accompagnement plus présent au niveau social aussi, parce que les enfants sont pas forcément bien entourés. Il y a des fois, ils ont que leur famille, ils sortent pas forcément. Moi, j'aurais par exemple l'accompagnement. L'école est qu'à 10 mètres, sinon ils sortent pas énormément. Du coup, le fait que nous soyons présents, on essaie de les sortir de tout ça, comme l'expliquait Anthony tout à l'heure, et pouvoir leur montrer autre chose et essayer de pallier à cette peur de l'école et des résultats.
Et de manière un petit peu plus large, est-ce que vous avez un regard sur les politiques publiques qui sont mises en place en termes d'éducation ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent évidentes à mettre en place pour lutter contre l'échec scolaire ? Anthony Gilles, par exemple.
D'accord, j'ai vu, hein, vous m'avez fixé. Très franchement, donc au final, avons-nous un regard ? La FEUV, à l'échelle nationale, oui. Ça aussi, c'est vraiment intéressant lorsqu'on étudie un peu le fonctionnement de cette association-là. Lorsque, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors des présidentielles de 2012, eh bien, ils avaient justement sorti un rapport, je ne sais pas si vous l'aviez lu à l'époque, mais c'était sur l'échec scolaire, c'était sur la jeunesse, en fait, au sens large. Et donc, au final, ils ont des analyses, des sociologues, des intellectuels qui tentent d'avoir un maximum de champs de réflexion et puis ensuite d'être force de proposition, justement. Donc voilà, ça c'est concernant la FEUV. Nous concernant nous, on a un peu la tête dans le guidon et puis on essaye de faire du mieux qu'on peut. Au final, voilà. La deuxième partie je vous demanderai la deuxième partie justement, est-ce qu'on a une vision sur les politiques ? Et ensuite c'était...
Comment faire pour enrayer cet échec scolaire ? Est-ce que vous auriez des propositions à faire ? De manière très pratique sur le terrain, le vécu, ce que vous voyez, vous, chaque semaine, en fait, lors de votre accompagnement à la scolarité.
Il y a pas mal, lorsque je pense à échec scolaire, et c'est ce que je constate, hein, il y a pas mal, si vous voulez, de mésestime, manque d'estime, de soi. Si on va sur ces questions de démo qu'on va traiter tout à l'heure, c'est parce que à un moment donné, les enfants, entre guillemets, ils s'auto-définissent à partir du quartier dans lequel ils évoluent, à partir du salaire de leurs parents ou de leur situation professionnelle, et parfois, du coup, le fait qu'ils n'aient pas de situation professionnelle, etc. Donc au final, si vous voulez, ils sont totalement... ils ont l'impression que tout est dit, quoi. Où est-ce que je veux dire ? Mm-hmm. Et étant donné qu'à la télévision, eh bien, voilà, souvent ils sont stigmatisés, ils sont voilà, certaines représentations, eh bien, les catégories, les prédestinent à tout cela. Eh bien, et puis, comme tu le disais, le fait justement que dans leur propre entourage, eh bien, si vous voulez, c'est un peu l'idée d'un cercle vicieux, quoi. Parce que finalement, leurs aînés, ceux qui les ont précédés, etc., eh bien, étaient déjà victimes de ce système-là. Donc, au final, ils n'ont pas éventuellement les bonnes représentations. Et ce ne sont pas de leur bouche, de ces personnes-là, de leurs aînés, eh bien, qu'ils entendront justement que l'école permet de tout faire, que le système social les attend et veut les valoriser, etc. Donc c'est assez compliqué, dès l'âge de 6, 8, 10 ans, eh bien, de croire en soi et de se dire, oui, le biais de l'école peut être peut être un moyen justement pour moi de prendre confiance, d'acquérir des compétences, des connaissances, etc. Et puis un jour, bah, que ce soit l'université ou que ce soit être boulanger ou que ce soit, je veux dire, mais voilà, je me serais défini entre guillemets ma passion et puis je me donnerais les moyens de l'accomplir, quoi.
On évoquera dans une deuxième partie le projet démo, donc avec Jonathan Pomeray, vous nous en parlerez, mais tout de suite on va marquer une pause avec Ottilie, Survive, je suis l'étoile.
Les toucher, les toucher où ils sont cognats. N'est des caprices d'un amour kamikaze. Moi, le paradis, les mille et une verges. C'est de la bombe. Bombe, bébé. Pas vraiment débordé, mais je déborde de la cage que je me forge. Je suis pas vraiment enfermée, mais je la ferme. Enfin, ça dépend des fois. Pourtant, je suis vivante, 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 vivante.
C'est le sous-marin sur Radio Campus Angers et le mardi, on regarde ce qui se passe en dehors du sous-marin avec Quentin et sa chronique géopolitique. On entend parfois s'élever les petites voix des associations pour évoquer le régime totalitaire en Corée du Nord. Récemment, l'exécution sommaire de l'oncle du dirigeant Kim Jong-un avait fait grand bruit dans les médias. Hier, c'est un plus gros poisson qui s'est attaqué à la moitié nord du pays du matin calme.
Pour la première fois, une commission mandatée par l'Organisation des Nations Unies a remis un rapport détaillé de près de 400 pages sur l'état des droits de l'homme en Corée du Nord. On s'attendait à des conclusions pesantes. Le rapport fourni par la commission d'enquête est accablant. Le rapport fait état de privation de liberté, de sévices commis par les forces de l'ordre sous la bénédiction du gouvernement. Il parle de famine organisée consciencieusement pour maîtriser la population. Des opposants politiques ou des victimes malchanceuses sont arrêtés en toute discrétion, puis emmenés dans des camps de travail où ils sont traités comme des sous-hommes par leurs gardiens. Faire disparaître les gens s'intègre dans la stratégie du gouvernement. Cela permet de maintenir un bon niveau de peur ambiante. Une peur superstitieuse vis-à-vis de tout ce qui pourrait s'écarter du chemin tracé par la propagande. Une propagande enseignant que les Coréens sont une race d'hommes purs et vertueux, survivant dans un monde hostile grâce à leur dictateur bien-aimé. À l'intérieur des camps, les femmes sont violées en toute impunité par les matons en chef. Une femme a dû noyer elle-même son nourrisson sous prétexte que le père aurait été chinois. Les villageois libres, comme les prisonniers, meurent de faim. Dans les camps, les corps sont brûlés et utilisés comme engrais. Assez d'éléments pour parler de crimes contre l'humanité. Ces traitements feraient passer les talibans pour des enfants de cœur.
Que va-t-il se passer maintenant ?
Le rapport rendu public hier va probablement finir sur la touche. On observera quelques articles et chroniques scandalisées dans les médias occidentaux. Des interventions comme la mienne qui ne pourront s'empêcher de dépeindre un état des lieux catastrophique. Le chef de la commission d'enquête, le juge australien Michael Kirby, voudrait que l'ONU assigne la Corée du Nord et tous les responsables de ces atrocités devant la Cour pénale internationale. Et si besoin il y a d'abréger la procédure, la création exceptionnelle d'un tribunal pénal international devrait être envisagée. Rien de tout cela n'aura lieu. Ce rapport ne provoquera pas à lui seul la chute du régime nord-coréen. Deux choses, soulignées par le juge Kirby, sont positives dans ce rapport. D'abord, personne ne pourra plus feindre d'ignorer la situation dantesque en Corée du Nord. Ensuite, avec énormément d'optimisme, on peut envisager la chute de Pyongyang par d'autres biais. Le rapport trouverait alors son utilité pour juger les dirigeants déchus.
Et pourquoi ce rapport ne pourrait-il pas faire plus ?
La Chine, selon toute vraisemblance, opposerait son veto à toute mesure qui pourrait être proposée par l'ONU contre la Corée du Nord. La Chine protège son petit frère communiste depuis la création de la République populaire démocratique de Corée en 1945. La Chine n'a que très peu d'alliés politiques, même en Asie. Il est vrai toutefois qu'elle n'en cherche pas vraiment. Notons que les autorités de Pékin, selon le même rapport, collaborent avec celles de Pyongyang et renvoient sans état d'âme régulièrement des citoyens nord-coréens cherchant à fuir leur pays d'origine. Tout de même, vouloir se réfugier dans le modèle de démocratie chinoise, c'est tout un symbole de la dureté du régime de Pyongyang et de l'ignorance dans laquelle sont plongés les Nord-Coréens dès l'enfance. La question de la Corée du Nord soulève par ailleurs le problème d'une Chine qui devient ingérable et imprévisible. Forte de son statut de première puissance commerciale, la Chine est devenue en 20 ans un pays qui n'aspire qu'à devenir empire. L'armée chinoise, nombreuse et intimidante, est d'ailleurs là, qui pourrait pallier à toute éventualité. Il faut dire que la Chine collectionne les conflits territoriaux comme Taïwan ou encore les îles Senkaku disputées avec le Japon. Toutes ces questions relèvent en fait de politique intérieure. Le gouvernement chinois, comme les gouvernements voisins, s'évertue à éveiller un sentiment patriotique chez ses concitoyens pour occuper leur conscience. La guerre semble loin, mais l'inculcation d'état d'esprit nationaliste n'en est pas moins un terreau favorable.
Merci Quentin pour cette chronique géopolitique. On te retrouvera bien sûr mardi prochain. Retour dans le scaphandrier, dans le sous-marin sur Radio Campus Angers en compagnie de La Fève. Et on va évoquer dans cette deuxième partie le projet DEMO avec Jonathan Pomeray. Le projet DEMO, c'est un projet qui vise à la démocratisation de l'enseignement supérieur, en fait à démystifier les études supérieures, c'est bien ça ?
C'est bien ça, oui.
Auprès des jeunes des quartiers populaires, quels pans de ces études doivent être démystifiés en fait ? Quelles sont les idées qui reviennent ?
Beaucoup d'idées qui reviennent, c'est que l'université n'est pas du tout accessible pour tout le monde, même si elle est publique en France. Qu'en fonction d'où on vient, de quel quartier on vient, on n'aura pas forcément les mêmes chances d'arriver à l'université ou même au lycée. Et qu'en fonction des filières qu'on peut faire au lycée, l'université n'est pas accessible pour eux, s'ils viennent de technologique ou de pro.
Est-ce qu'il n'y a pas certaines idées que vous venez de citer qui sont un peu vraies ? L'université n'est pas accessible pour tout le monde. Alors certes, elle est publique, mais elle demande quand même un certain investissement.
Elle demande un certain investissement, mais pour certains, elle est largement accessible pour eux. Même s'il y a une partie qui est vraie au niveau du financement, il y en a beaucoup qui habitent dans la ville d'Angers, dont les études pourraient se faire sur Angers, donc on n'aurait pas de problème de logement. Mais les écoles n'en parlent pas forcément assez, ou l'université est largement trop mystifiée pour eux.
Alors, quelles sont les actions concrètement que vous menez pour justement réussir à faire passer ces idées-là auprès des jeunes ?
Concrètement, en fait, on intervient trois fois dans les collèges ou les lycées qui nous demandent. La première fois, en fait, on vient leur présenter et parler de certains préjugés qu'on peut avoir sur les étudiants et ces choses-là, et les démystifier. En deuxième temps, il y a des professionnels qui viennent présenter leur parcours professionnel. Et enfin, après, on met les collégiens ou les lycéens dans le bain en les emmenant sur le campus universitaire.
Lequel ? À Angers ?
Ça doit être
Saint-Serge ou Belle-Beille. Justement Belle-Beille.
Et Anthony Gilles, vous avez participé aussi à ce projet-là. Donc peut-être que vous pouvez également nous expliquer quelles sont les réactions des jeunes quand ils arrivent sur le campus.
Ah, participer à la dernière étape ?
Oui.
Non, pas encore. Participer uniquement à la première
étape. Jonathan, vous l'avez vu cette étape-là où
non,
les jeunes arrivent sur le campus ?
On n'a pas encore eu le temps de le faire. Ça ne s'est pas encore mis en place avec certains collèges parce qu'on n'a pas forcément été demandé par tout le monde.
Et ça arrive en fin d'année, en fait, tout simplement, en fin d'année scolaire.
Et est-ce que vous sentez que, depuis le travail que vous menez là, dans ce projet démo, l'idée fait son chemin, que peut-être l'université, la fac, c'est pas si inaccessible que ça ?
Bah, on remarque, quand on est déjà intervenu, qu'il y a beaucoup de réactions de leur part, beaucoup de questionnements qui s'étaient jamais posés avant, et donc ça les fait réagir quand même un minimum.
Est-ce que vous avez des idées pour rendre plus accessible l'université de manière générale, pas seulement dans l'esprit, mais concrètement ? À la fève.
Tu en as, John ?
Non.
Jonathan, bon, ouais. Tu n'en as pas ? De manière très concrète, tout à l'heure, on parlait limite d'inaccessibilité d'un point de vue financier. Je crois que lorsqu'on vient des classes extrêmement populaires, je crois qu'on a toute une somme d'aide. Peut-être que c'est plus les classes moyennes qui vont avoir des difficultés pour financer, etc. Donc au final, rendre public, rendre vraiment gratuit, entre guillemets, à tous, voilà, peut-être que ça permettrait, mais je pense que c'est pas uniquement d'un point de vue financier. Je pense qu'on retombe tout le temps dans ces idées voilà, lorsqu'on est en filière pro, c'est pas fait pour nous. Lorsqu'on est de tel quartier, c'est pas fait pour nous. Lorsqu'on est, voilà. Donc au final, on est dans la même dynamique tout à l'heure. Dans l'accompagnement, c'est-à-dire vraiment redonner confiance, etc. Mais surtout, dans le projet de démocratisation de l'enseignement supérieur, dans la première étape, justement, on a créé une vidéo qui traite des différents stéréotypes et tout. Moi, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai vu pas mal d'enfants nous dire non, mais c'est absurde. Ce que vous venez de dire, là, oui, en effet, c'est des stéréotypes, etc., mais on sait pertinemment que sur les S, sur les filières médicales, etc., c'est vraiment des stéréotypes. Donc, au final, ils ont l'air d'être assez conscients de cela. Mais au final, c'est vraiment, entre guillemets, dans le projet démo, si vous voulez, on est aussi là pour leur dire que l'université, je veux dire, c'est pas la finalité de tout parcours réussi. C'est-à-dire que des collégiens qui nous disent, moi, ma passion, c'est vraiment être boucher, c'est être électricien, etc. Tout cela, ça me passionne, franchement. Je vais pas lui dire, va chercher un master, ça sert à rien.
Je vous remercie d'en arriver là, parce que c'est le projet démo, c'est un projet qui est financé par la région, juste assez un petit aparté, mais quand même 155 000 euros sur 3 ans pour ce projet-là. Et on se dit que ça s'inscrit peut-être dans le cadre d'une politique publique qui vise à mettre 50% d'une génération diplômée du supérieur. Et en fait, c'est pas forcément une finalité d'arriver à la fac, d'arriver à la licence.
Exactement. Le tout, si vous voulez, c'est à la fois de dire... si vous voulez être boucher, si vous voulez être plutôt dans quelque chose de manuel, etc., eh bien alors allez plutôt vers des CAP, des BEP, des bac pro, etc. Vous réussirez votre vie. Bac pro, et puis ensuite vous partirez sur le marché du travail. En revanche, pour ceux justement qui rêvent d'être, je sais pas, comptable, on me dit qu'on peut pas rêver d'être comptable de nos jours, mais je sais pas, comptable, banquier ou je ne sais quoi, eh bien, ou sociologue et autres, eh bien, en effet, il faudra passer par des études universitaires. Et donc, auquel cas, eh bien, lorsqu'on a un enfant décidé, oui, ça me plairait de... Mais bon, je ne viens pas du bon milieu, je n'ai pas les bons moyens, etc. Eh bien voilà, qu'il ne s'en exclut pas. C'est vraiment ça, en fait, le projet à la base. C'est comme ça, en tout cas, qu'à la fève, on le vit. C'est vraiment que personne ne s'exclut. Et surtout, ce n'est pas parce que tu as 18 de moyenne générale, arrivé au brevet, eh bien que nécessairement, si ta passion, justement, est d'être boulanger ou boucher, eh bien que tu dois aller vers une filière, justement, générale, et puis ensuite, faculté, et tutti quanti. Donc voilà, là, on est vraiment dans cette dynamique-là.
Alors justement, pour participer à cette dynamique-là au sein de la FEV, vous recrutez en ce moment ?
Oui.
Vous recrutez des étudiants ?
On recrute des étudiants de tous horizons.
Vraiment. Dynamique et motivée.
Ouais. Dynamique et motivée, comme dit Noémie.
Et pas que des filles, parce qu'apparemment, il y a...
Oui, alors, les filles sont bienvenues. Hein. En tant qu'homme, notamment. Mais en l'occurrence, je vous dis que vraiment, on manque de... Bah, c'est pas on manque de garçons, mais on aimerait justement que les garçons se sentent aussi investis par ces problématiques-là que les femmes. Et donc voilà. Mais surtout, de tous horizons, j'insiste vraiment sur ce point, parce que c'est vraiment une riche expérience que de voir en fait la diversité des parcours scolaires. On a vraiment des Sciences Po, on a des sciences de l'éducation comme Noémie, on a un psycho comme Jonathan, on a justement histoire, on a des littéraires, etc. Et puis, étant donné qu'on on organise pas mal de temps d'échange, de temps de rencontre, des apéros, etc., pour permettre aux bénévoles, pas de boire, mais clairement de se rencontrer, voilà, et de partager des choses ensemble, eh bien, c'est vraiment une expérience humaine, quand même. La FEV, je pense être...
T'as raison.
Oui.
On mettra le numéro sur le site de Radio Campus
Merci
Angers.
Beaucoup.
Merci à vous, Anthony Gilles, Jonathan Pommeret et Noémie Vigneron, d'avoir accepté notre invitation dans le sous-marin.
Merci de nous avoir accueillis.
On va marquer une troisième et dernière pause musicale avec Lali Anne Ini à Garan. Vous écoutez Le Sous-Marin sur Radio Campus Angers. Mardi, c'est politique avec Pierre-Antoine. La semaine dernière, l'Union européenne autorisait la culture d'un maïs transgénique, attention, le TC1507. Faute de consensus de la part de tous les États membres, le gouvernement français a décidé de s'opposer à son usage en France.
OGM, ce seul nom peut suffire à raviver le conflit social entre Paris et certains agriculteurs. Alors que l'Europe a échoué à interdire la venue d'un nouveau maïs génétiquement modifié, justement le TC1507 de Pionnet Dupont en France, le combat se poursuit, un combat qui n'est pas nouveau. En 2008 et 2012, la France avait déjà interdit l'usage d'un maïs OGM, le Mont 810 commercialisé par la multinationale Monsanto, décision que le Conseil d'État a cassée en juillet dernier. Depuis, le gouvernement n'a eu de cesse de chercher à stopper sa culture. Mais aujourd'hui, le temps presse. Certains agriculteurs ont déjà fait part de leur volonté de planter des OGM avant les semis d'avril.
Le Parlement va avoir le temps de s'occuper de cette loi avant avril ?
Là réside une partie de la question. Hier, les sénateurs examinaient une proposition de loi du sénateur socialiste de l'Aveyron, Alain Fauconnier. Au départ, le texte ne portait que sur le Mont 810, mais les événements de la semaine dernière l'ont poussé à modifier sa proposition. Le gouvernement avait alors décidé d'engager une procédure accélérée, mais hier soir, le texte, à la surprise de tous, était repoussé par le Sénat, l'UMP ayant déposé une motion d'irrecevabilité, rejointe par 9 sénateurs du Parti radical de gauche, pourtant allié du gouvernement. Le texte ne sera même pas transmis aux députés, et si le gouvernement voudrait se faire passer au Parlement une loi anti-OGM qui ait des chances d'aboutir, il faudrait qu'un député socialiste en fasse la demande. Alain Fauconnier, le rapporteur de la proposition de loi, appelle à un temps de réflexion. Le texte ne vise pas à mettre fin au débat, mais au contraire à permettre la poursuite des discussions au niveau national et européen afin de mettre au point de nouvelles méthodes d'évaluation des OGM, a-t-il déclaré à l'AFP. On peut s'interroger sur le comportement de l'UMP. Pourquoi, après avoir, par décret, en 2008 et en 2012, interdit la culture de produits génétiquement modifiés, en particulier le maïs de Monsanto, rejette-t-il aujourd'hui une loi qui, en substance, est dans la droite ligne des précédentes? Le sénateur UMP qui a déposé la motion d'irrecevabilité, Jean Bizet, déclare que le texte est contraire à plusieurs dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires, une position partagée par Claude Ménara, producteur de maïs dans le Lot-et-Garonne et fervent défenseur de la culture de GM. Il était sur France Info.
Nous n'avons pas de clause de sauvegarde qui interdise de semer du maïs. La clause de sauvegarde, tout ça, c'est du pipeau. Il n'y a aucune donnée scientifique qui démontre la dangerosité de ce maïs par rapport à un maïs conventionnel. On peut semer dès les premiers beaux jours, je dirais à partir du 8-10 mars, 15 mars, eh bien, bon nombre d'agriculteurs, de maïsculteurs vont semer du maïs transgénique. De toute façon, c'est contraire au droit communautaire. C'est non seulement ça bafoue l'état de droit et considère les institutions, mais en plus, c'est indigne des côtés politiques de nos parlementaires.
Mais que compte faire le gouvernement, Pierre-Antoine ?
C'est donc en marge de ce texte que le gouvernement étudie un autre moyen de contourner la législation européenne. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, s'est dit très déçu par la décision du Sénat et a annoncé ce matin qu'un nouvel arrêté serait signé d'ici le 15 mars. « Je suis désolé de ce qui s'est passé car je souhaite un débat le plus objectif possible », a-t-il déclaré. Il ajoute qu'il regrette des jeux de positionnement politique dans un débat important. Un autre ministre qui prend rarement la parole, celui-là, est sorti de sa réserve naturelle. C'est Philippe Martin, ministre de l'écologie, qui a lui aussi affirmé sa détermination. « C'est un incident parlementaire comme il en arrive de temps à autre. Nous allons faire en sorte qu'il y ait un nouveau texte. » Dans le même temps, le chef de file des socialistes à l'Assemblée nationale a déposé une proposition de loi. C'est Bruno Leroux. Il cherche à interdire plus particulièrement le Mont 810.
Un contre-la-montre entre pro et anti-OGM, en gros.
C'est exactement ça, oui. À qui sera le premier entre certains agriculteurs qui sont prêts à semer un peu plus tôt pour passer outre le futur décret et le gouvernement et la majorité qui jouent le peu de crédibilité qu'il leur reste en matière de décision européenne?
Et qui gagnera le bras de fer?
Alors même si l'Association française des biotechnologies végétales, qui est pro-OGM, trouve la décision du gouvernement passéiste, elle a reçu aussi le soutien de ténors de l'opposition comme Christian Jacob, les socialistes ne devraient pas avoir trop de problèmes. Ils possèdent la majorité absolue à l'Assemblée nationale, qui aura au final le dernier mot.
Merci Pierre-Antoine. On termine ce sous-marin avec les plans sortis pour ce soir et pour demain à 20h ce soir. Excalibur de John Borman est projeté au Musée des Beaux-Arts dans le cadre du cycle Cinéma Moyen-Âge. Ciné toujours, La soif du mal d'Orson Welles est projeté au 400 coups à 20h15. Décidément, c'est un soir à se faire une toile à la passerelle sur le campus de Belle Bay, projection de la Tente Rouge en partenariat avec Accès au cinéma invisible, Histoire 2 et le Crous. À 21h, Buff Blues au T-Rock Coco et session irlandaise au Welsh. Demain, dans le foyer du Grand Théâtre, Antigone se joue à 18h et c'est gratuit. Et puis au Grand Théâtre, tout court, à 20h, la pièce Hier est un autre jour. À 19h, demain toujours, à l'espace culturel de l'université, scène ouverte et bœuf musical, et à 21h30 au T-Rock, concert de Circuit Breaker et Duvet Boa. Voilà, il est l'heure pour nous de ranger les scaphandriers au placard. Antoine Manuel Sous-Marin ce soir, Quentin, Pierre-Antoine et Nanette m'ont accompagné en ce mardi. Vous pouvez nous réécouter en podcast sur notre site internet le www.radiocampusangers.com. À 21h, vous retrouvez The Johnny Clash Show, l'incontournable, le célèbre. On vous laisse avec l'incontournable également Bulle Sonore, l'équipe de Ciné Qua Non qui sévit tous les vendredis. Dresse la liste non exhaustive des sorties ciné de cette semaine. Merci à vous d'avoir embarqué avec nous dans le sous-marin. On se retrouve jeudi à 19h. Bonne soirée sur campus et joyeux mercredi. Allez, bisous.
Et je commence, alors j'ouvre la danse avec Only Lovers Left Alive, donc tout dernier film de Jim Jarmusch, que vous devez connaître sûrement pour Coffin Cigarette, Ghost Dog, Broken Flowers, et qui nous surprend avec un film de vampires apparemment, qui raconte en gros l'histoire d'Adam et Ève. Surtout ça relate l'histoire d'Adam qui est un musicien underground, qui est amoureux donc de Ève, qui vit avec Ève et qui traverse le monde entre Détroit et Tanger, et va arriver la petite sœur de Ève qui va peut-être tout changer la donne et rendre l'univers fragile sur lequel ils essaient de vivre complètement impossible. Donc beaucoup d'attentes pour ce film de ma part.
Sort aussi la semaine prochaine Tout va bien, premier commandement du clown. C'est un documentaire qui a été réalisé par Pablo Rosenblatt et Émilie Desjardins. Et donc ils ont suivi pendant 2 ans dans une école de clowns 10 filles et 4 garçons qui prennent un tournant dans leur vie et se lancent dans une quête, chercher son clown. Donc on suit leur évolution, leur prise de conscience, leurs doutes, et ça amène à la découverte de cet art populaire qui est le monde du cirque.
Alors, autre sortie, c'est Pompéi, un film de Paul Anderson qui a aussi réalisé, entre autres, Resident Evil. Nous sommes en l'an 79 dans la ville de Pompéi. Milo, un esclave d'un puissant marchand, rêve du jour où il pourra racheter sa liberté et épouser la fille de son maître. Mais celui-ci croule sous les dettes et a déjà promis sa fille à un sénateur romain pour rembourser. Manipulé puis trahi, Milo se retrouve à risquer sa vie comme gladiateur et va tout tenter pour retrouver sa bien-aimée. Au même moment, d'étranges fumées noires s'élèvent du Vésuve dans l'indifférence générale. Dans quelques heures, la ville va être le théâtre d'un des plus grandes catastrophes naturelles de tous les temps.
Sortira ensuite La Grande Aventure Lego, réalisé par le duo de réalisateurs Phil Lord et Chris Miller, à qui on doit notamment les Tempêtes de Boulettes Géantes numéro 1 et numéro 2.
Super beau film.
Et le remake de l'ancienne série 21 Jump Street. Alors l'histoire, c'est Emmett, un petit personnage banal et conventionnel que l'on prend par erreur pour un être extraordinaire, capable de sauver le monde. Il se retrouve enchaîné parmi d'autres dans un périple des plus mouvementés, dans le but de mettre hors d'état de nuire un redoutable despote. Mais le pauvre Emmett n'est absolument pas prêt à relever un tel défi. Alors c'est intéressant de noter que c'est le premier long métrage d'animation Lego au cinéma, contrairement à la pléiade de vidéos qui parcourt le net, sur des franchises telles que Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux et autres parodies. Il fait également partie des films à licence de l'industrie du jouet, à l'image des Transformers ou G.I. Joe, et que l'animation sera en stop motion. Les effets spéciaux également seront réalisés avec les briques de Lego, donc c'est...
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.